une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Vous savez que tout en revivant les faits saillants de la semaine dans le monde, en Afrique notamment, grâce au reportage bien sûr de la rédaction, nous insistons chaque samedi sur un aspect particulier de l'actualité. Cette semaine, avec notre invité Joseph Confavreux, nous allons nous attarder sur la crise des gilets jaunes qui secoue la France depuis plus de 2 mois. Mais avant de nous intéresser à la France, partons pour le Venezuela où il s'est passé quelque chose d'important sur le plan politique, l'apparition d'un second président de la République. Mercredi, en effet, le président du Parlement, Juan Guaido, s'est autoproclamé président par intérim du pays, alors que Nicolas Maduro, élu dans des circonstances discutées en mai dernier et plus que jamais au pouvoir, à Caracas, reportage de Benjamin Delisle.
Il est environ 17h à Caracas, plusieurs milliers de personnes sont encore dans les rues pour manifester leur soutien à Juan Guaido. Carlos était à côté de la scène lorsque l'opposant s'est autoproclamé président par intérim.
C'était fabuleux, nous avons enfin un leader pour aller de l'avant et en finir avec ces dictateurs.
Qu'importe d'ailleurs les menaces proférées par Nicolas Maduro qui accuse l'opposant de vouloir faire un coup d'État avec le soutien de Washington.
Il peut dire ce qu'il veut, il est illégal, illégitime, il n'a plus rien à dire. Le président maintenant c'est Guaido.
Avant même qu'il ne prête serment, de nombreux officiels chavistes avaient menacé Juan Guaido de l'arrêter s'il osait sauter le pas. Mais pour Arturo, 53 ans, ils n'ont pas intérêt.
S'il l'arrête, je pense que ça va entraîner une crise sociale très grave, très grave.
Il salue d'ailleurs le soutien international envers son nouveau président.
Ils sont dans le droit chemin, dans le respect de la Constitution et des lois vénézuéliennes.
À ses côtés, Ernesto a le sentiment d'avoir assisté à une proclamation historique.
Il ouvre une nouvelle ère, il a montré qu'il était le représentant constitutionnel et légal du peuple, le président légitime.
Il existe désormais 2 présidents de la République au Venezuela, et ni l'un ni l'autre ne semble prêt à renoncer à ce titre.
Beaucoup de pays soutiennent désormais ce coup de force institutionnel, dont les États-Unis, alors que la Russie, par exemple, soutient, elle, Nicolas Maduro, à suivre dans nos journaux et dans nos éditions spéciales. Avant de nous intéresser aux gilets jaunes, donc, direction maintenant l'Allemagne, avec laquelle la France vient de signer un nouveau traité d'amitié à Aix-la-Chapelle, après celui signé le 22 janvier 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer à Berlin. Pascal Thibault.
Le traité d'Aix-la-Chapelle vient s'ajouter à son aîné. Il met en avant la coopération étroite de la France et de l'Allemagne, notamment sur l'Europe, sur les dossiers économiques, sociaux, sur les échanges entre les citoyens et la coopération transfrontalière. Les deux pays veulent poursuivre et intensifier leur coordination en matière de politique de défense et dans le monde. Bref, faire contrepoids aux forces centrifuges en Europe et aux opposants du multilatéralisme dans le monde. Le député chrétien-démocrate Andreas Jung dirige au Bundestag le groupe d'amitié franco-allemand.
Le traité de l'Elysée a œuvré pour la paix, les échanges et la réconciliation. Le nouveau texte doit répondre aux défis actuels avec des réponses venant de nos 2 pays, notamment sur le changement climatique, la numérisation ou l'intelligence artificielle.
Mais tous ne sont pas aussi positif, Franziska Brandner, également membre du groupe d'amitié France-Allemagne pour les Verts, se félicite des avancées avec un fonds citoyen ou pour la coopération transfrontalière, mais l'élu écologiste regrette que l'Allemagne ait freiné sur des projets concrets comme le renforcement de la zone euro, l'environnement ou la taxe pour les géants du numérique.
Je suis déçu que de ces projets pour lesquels il y avait une majorité au sein des 2 parlements, les gouvernements n'ont rien fait. Pour l'ambition vis-à-vis de l'Europe, c'est rester derrière le mandat des parlements. C'est juste une occasion ratée.
Autant d'états d'âme qui ne manqueront pas de s'exprimer lors de la ratification du nouveau traité au Parlement allemand.
Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. Écoutez aussi sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Joseph Confavreux.
Bonjour à vous.
Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes un confrère journaliste qui fait de la radio. Vous avez fait de la radio longtemps à France Culture.
Longtemps à France Culture.
Hein, nos cousins de France Culture. Vous travaillez aujourd'hui à Mediapart. Vous vous occupez toujours de la vie des idées, en quelque sorte. Hein. Et là, vous venez de sortir avec d'autres experts, coordonner en tout cas un ouvrage qui s'intitule « Le fond de l'air est jaune », ça c'est le moins qu'on puisse dire. Comprendre une révolte inédite. Avant de parler des gilets jaunes, vous voulez dire un mot sur ce qui se passe au Venezuela et sur aussi ce nouveau traité franco-allemand. Je précise aussi que vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes un historien.
Alors effectivement, un historien un peu défroqué, mais ne peut pas considérer que les traités franco-allemands sont quelque chose de négligeable, même si là on a quand même l'impression d'un traité pour pas grand-chose, de deux chefs d'État affaiblis.
Certains disent même que c'est un copier-coller du traité de l'Élysée, ce nouveau traité.
Oui, voilà, je pense qu'il y a vraiment rien de nouveau, et ce qui est inquiétant, c'est que là on peut faire peut-être un lien malheureusement avec ce qui se passe du côté du Venezuela, c'est qu'en continuant la politique comme elle va, on risque, à mon avis, de se retrouver avec des Maduro, des Bolsonaro ou des Trump. Parce que moi, là, quand j'entends ce qui se passe au Venezuela, je pense d'abord au peuple de ce pays, ouais, qui est face à un véritable effondrement quasiment anthropologique, hein, avec un exil de population qui est quasiment comparable à celui qu'a connu la Syrie. Donc Maduro est responsable. Mais l'autre président est le représentant de cette droite, voire extrême droite, qui aujourd'hui fait un axe entre le Brésil et les États-Unis, qui est à peu près tout aussi inquiétante. Donc j'espère qu'en Europe, je pense pas que c'est en continuant les politiques telles qu'elles ont été menées depuis le traité de l'Élysée, qu'on va éviter le risque d'avoir des gens comme Maduro ou des gens comme Bolsonaro.
Traité de l'Élysée, nouvelle formule qui a donné lieu à des fake news, des infox, comme on dit aujourd'hui à propos de l'Alsace-Lorraine. L'historien que vous êtes a dû sursauter quand même.
Oui, là,
il paraît que les Français auraient vendu en quelque sorte l'Alsace-Lorraine aux Allemands avec ce traité.
Ce qui est intéressant dans les fake news,
ahurissant quand on y pense,
c'est à quel point des thématiques anciennes peuvent revenir. Ouais. C'est-à-dire que voilà, l'Allemagne et l'Alsace-Lorraine, on a l'impression que la question était réglée. Et en fait, on fait un traité pour rien, mais qui fait surtout réactiver les grandes thématiques qu'ont traversées tout le XXe siècle.
Dites-moi, Joseph Confavreux, ce livre que j'ai sous les yeux, Le fond de l'air est jaune, publié chez Au Seuil, est une performance éditoriale ?
Alors ça a été effectivement rapide, c'est-à-dire que moi j'ai été contacté par Le Seuil vraiment mi-20 décembre quasiment, dans l'idée que il fallait quand même, beaucoup de choses avaient été produites, notamment par certains chercheurs qui publient Au Seuil, certains intellectuels qui publient Au Seuil, et puis moi-même à Mediapart j'avais lancé une série d'entretiens ou de demandes de textes sur penser les gilets jaunes. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire à la fois c'était, même si évidemment c'est ce que je dis dans l'introduction, c'est une histoire encore en cours,
hein. Bien sûr.
Je pense que personne ne peut savoir où on va, donc il s'agissait pas de figer le sens d'une révolte, mais de dire que quand même cette mobilisation inédite nous avait tous percutés et qu'il était peut-être déjà temps d'essayer un peu de la comprendre dans tous les sens du terme, hein. Comprendre, ça veut dire à la fois la saisir, mais aussi l'accueillir dans sa diversité, y compris quand elle nous trouble, quand elle nous inquiète aussi. Mais comme les textes qui sont réunis dans cet ouvrage étaient à la fois, il y a des republications strictes de textes, il y a des textes inédits et puis il y a des textes enrichis, on s'est dit que c'était bien aussi d'en faire un objet. C'est-à-dire que ce soit à la fois une analyse de ce qui se passe, mais déjà des archives du présent.
Parce qu'il y a des photos, il y a aussi des slogans, ça c'est très drôle. Oui, on a fêté 68 il y a pas très longtemps, et là on a revu fleurir sur les murs, sur les gilets, des slogans incroyables.
Hein. Incroyable.
Moi, imagination,
une imagination. Une imagination. Il y avait une prise de parole, et le troisième élément qui me semblait important, que moi j'ai tenu à ce qu'on mette, c'est que on peut vraiment, je pense, personne, ni les journalistes, ni les intellectuels, ne peuvent se permettre d'avoir une parole uniquement surplombante sur les gilets jaunes, et donc pour éviter cet écueil, on a introduit des textes issus des gilets jaunes eux-mêmes, qui ont beaucoup circulé sur Facebook, oui, notamment, parce que je pense que c'est important de tenir ensemble l'analyse, la compréhension, et montrer que c'est quoi qu'on en pense, quoi que ça devienne, un moment de politisation très particulier.
Alors voici quelques slogans hein, que vous publiez qui sont très drôles. Travail, famine, pâte, riz. Alors, ça rappelle évidemment travail, famille, patrie. Ou alors, enfin les ronds-points servent à quelque chose. Ou soyez éco-responsables, bouffons du riche. Ça, on reconnaît le style des gilets jaunes. On ne rentre pas dans un monde meilleur sans effraction. C'est un autre slogan. Alors,
et juste là-dessus, moi, ouais. On a distingué des slogans qu'on avait vus sur des banderoles et sur des murs de... quand même ce qui a été, je pense, très particulier, c'est-à-dire les slogans sur les gilets eux-mêmes, donc des slogans très individualisés, oui. Qui du coup ne prennent souvent sens que dans un contexte, moi celui qui quasiment m'a fait le plus rire, c'est la reprise, vous savez, de l'affiche officielle des gilets jaunes qui était, enfin pas des gilets jaunes, de quand on a lancé ce gilet pour la sécurité routière, c'était Karl Lagerfeld qui disait c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien mais ça peut vous sauver la vie. Et là moi, j'ai trouvé sur une image d'un gilet jaune militant là qui avait réécrit le slogan qui prenait un tout autre sens. Et je trouve que vraiment il y avait une invention lexicale en tout cas.
Joseph Confavre, alors que nous en sommes aujourd'hui à l'acte 11, je sais pas si on peut parler d'acte 11, c'est pas du théâtre, enfin bon bref, revenons sur l'acte 10 de samedi dernier dans toute la France et reportage à Paris singulièrement de Simon Rosay.
Ils sont environ 7000 gilets jaunes à quitter l'esplanade des Invalides sur les coups de midi. Une bonne partie d'entre eux tient une fleur à la main.
C'est la révolution des mimosas et c'est pour montrer que nous sommes un mouvement pacifique, non violent, de citoyens responsables. Et donc le symbole, c'est le jaune, évidemment, et le mimosa.
Un mimosa, en hommage également aux gilets jaunes blessés ou morts depuis le début du mouvement. Cette manifestation a été organisée pour être calme, le parcours déposé en préfecture, un service d'ordre veille au grain, les slogans s'enchaînent. Après 9 samedis émaillés de violence, c'est une manifestation normale. En fin de parcours, certains déposent même des bougies.
Je voulais penser à ceux qui se sont engagés et à qui il est arrivé des problèmes. Quoi.
Mais voilà, après 4 heures de marche, au moment de se disperser, le cortège ne sait plus trop quoi faire, comme surpris de l'absence de heurts.
Il y a des gens qui font demi-tour, il y en a qui restent. Je pense que si on reste, ça ne va rien changer. Donc je pense qu'on va avancer un peu, puis je pense qu'on va partir, parce que c'est ce qu'ils attendent, qu'on se disperse. Mais c'est bête, hein, parce qu'en fait on recommence pour rien faire. En fait. On recommence pour marcher, pour faire une petite marche, puis point barre. C'est triste.
Et de fait, une partie des gilets jaunes rebroussent à leur chemin et tentent de lancer une manifestation sauvage, arrêtée net par les forces de l'ordre à coups de lacrymogènes et de canons à eau. Peu avant 19h, le cortège finit par se disperser, comme lors d'une manifestation normale.
Et donc, Joseph Confavreux, nous en sommes à la 11e semaine de manifestation. Samedi, ces manifestations.
Samedi, ces manifestations. C'est assez étonnant hein, que ça aille dans la durée. Beaucoup de gens pensaient que ça s'arrêterait après la période de Noël. Je pense que cet acte 10 plus pacifiste a été important parce que c'est vrai que après une montée en puissance, en complexité là durant tout le mois de novembre-décembre, quand on est rentré de Noël, les premières manifestations du samedi ont été vu uniquement sous l'angle de la violence, avec le symbole de ce boxeur assénant des coups à un officier de police. Et donc je pense que même symboliquement, c'était important que pour les gilets jaunes eux-mêmes, qu'on montre que on ne pouvait pas réduire ce mouvement à la violence, et que la violence, il faut quand même le rappeler encore une fois, c'est une thématique très très floue, c'est un objet qu'on peut, si on prend un temps T, évidemment une violence est illégale, mais il y a un tel vieux déni de la violence sociale que des formes de violence, notamment quand elles s'en prennent aux choses et non pas aux personnes, peuvent être légitimes même si elles sont illégales. Donc je pense que c'était important. Après, c'est sûr que là, je pense que même les gens qui liront Le fond de l'air est jaune qui est sorti jeudi au Seuil ne sauront pas ce que va donner cet acte 11, ni ce que va donner peut-être l'acte 12. Je pense vraiment les gilets jaunes parmi plein d'autres choses nous obligent, et particulièrement nous journalistes, à être dans une posture vraiment modeste.
Modeste, absolument, ce qui n'est pas toujours le cas des journalistes, on le sait, Joseph Confavreux. Vous rappelez dans l'avant-propos, et je dois d'ailleurs signaler que ce livre montre qu'il y a des intellectuels en France, et des intellectuels qui réfléchissent, et qui réfléchissent vite, hein, un certain nombre sont dans le livre. Vous notez, Joseph, ainsi que l'ont écrit le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval, qui sont dans le livre, les gilets jaunes, que cela plaise ou non, ont réussi ce que 30 ans de lutte sociale n'ont n'ont pas réussi à faire, mettre au centre du débat la question de la justice sociale.
Moi, je pense qu'il y a eu une dimension performative. C'est-à-dire qu'on est parti d'une mobilisation qui semblait quand même assez ancrée à droite, dans quelque chose de très antifiscal, voire anti-étatiste, voire
poujadiste,
contre, voilà, dont on disait poujadiste. Et on sent bien que un, ce n'était pas que ça au départ, même si on peut voilà avoir les origines avec le 80 à l'heure sur les routes. Enfin, on peut voilà, on peut faire une généalogie qui est importante à faire, mais déjà dès le départ, on ne pouvait pas réduire ça à une des manifestations poujadistes, voire pire, il y a eu des comparaisons avec les chemises vertes des années 30, des mouvements agricoles qui étaient vraiment très à droite. Et après, il y a eu aussi une lutte pour dire qu'est-ce que c'est. Et là, moi, je pense que les Gilets jaunes, dans leur ensemble, ont réussi un tour de force qui a été d'imposer cette thématique de la justice sociale et de la justice fiscale comme rarement. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était quand même un débat assez technique entre Thomas Piketty qui est dans le livre et soit les hollandistes, soit après les macronistes qui disaient que non, en fait, l'ISF finalement de la suppression permet de ramener des gens qui permettent d'enrichir les caisses de l'État. Voilà, on avait et ce débat qui a longtemps été technique, là, il était sur les ronds-points, sur les routes, dans les rues.
Avec des avancées pour eux, puisque Emmanuel Macron a annoncé un certain nombre de choses concrètes, hein, l'augmentation du SMIC, etc.
C'est que de fait, ce qu'on constate, c'est que même si on a reproché aux Gilets jaunes leur violence, moi, ce que je vois, c'est que les deux mouvements, mobilisation sociale, qui ont obtenu des choses, pas tout, mais en tout cas des choses face à Macron, c'est d'abord la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec voilà le renoncement à construire cet aéroport qui avait été quand même imaginé dans les années 50 dans un tout autre contexte énergétique et territorial, et les Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui ne reculent pas devant un certain engagement physique, voire des formes de violence envers les biens.
Une semaine d'actualité.
Joseph Confavreux, continuons nos allers et retours entre la France et l'actualité du monde dans ce numéro spécialement consacré aux Gilets jaunes. Et partons maintenant pour Moscou pour évoquer un des plus vieux contentieux des relations internationales et qui oppose la Russie et le Japon à propos des îles Kouriles. Il y a eu de nouvelles négociations cette semaine, mais elles ont échoué. Moscou, Daniel Vallot.
Les discussions entre Sergueï Lavrov et Taro Kono, le chef de la diplomatie japonaise, ont duré plusieurs heures, mais visiblement, aucun progrès n'a été enregistré à l'issue de la rencontre. Au cœur des tensions, les îles Kouriles, ces quatre îles du Pacifique annexées par l'Union soviétique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Des îles qu'il n'est pas question de céder au Japon, a déclaré très fermement Sergueï Lavrov.
Nous avons confirmé être prêts à travailler sur la base de la déclaration de 1956, ce qui signifie avant tout le caractère indiscutable dès le départ de la reconnaissance par nos voisins japonais du bilan de la Seconde Guerre mondiale, y compris la souveraineté de la Russie sur toutes les îles Kouriles. C'est notre position de base et sans un pas dans cette direction, il sera très difficile d'avancer sur le reste.
En novembre dernier, Vladimir Poutine et Shinzo Abe s'étaient promis de parvenir en 2019 à la signature d'un traité de paix. Mais depuis, les relations entre Tokyo et Moscou se sont nettement dégradées. Le Japon n'a pas apprécié l'annonce par la Russie de la construction de casernes sur les Kouriles et le Kremlin s'est agacé des récentes déclarations de Shinzo Abe promettant un changement de souveraineté sur les îles.
Revenons en France, Joseph Confavreux, avec les Gilets jaunes, donc, pour évoquer cette fois la colère des commerçants, dont l'activité est perturbée chaque samedi depuis plus de 2 mois maintenant, perturbée par les manifestations. Pauline Glaise.
Magasin qui ferme plutôt le samedi, centre-ville boudé par les clients, scène de violence à répétition. C'en est trop pour un collectif d'associations de commerçants. Au-delà du courrier, Charles Compagnon, président du Carré Rennais, souhaite une rencontre avec le ministre de l'Intérieur.
Le jeu de casser les vitrines, d'envahir les villes, de les tailler, de faire peur aux clients et de bloquer les rocades, ça c'est plus acceptable et ça c'est du ressort du ministère de l'Intérieur.
Plus acceptable non plus pour Olivier Dardet, le président de l'association Nantaise Plein Centre réclame le retour de l'ordre.
Nous ce qu'on veut c'est soit vous sanctuarisez les centres-villes de façon à ce qu'on puisse pas accéder dans le cœur de ville et de façon à ce qu'il n'y ait pas cette casse et cette dégradation, etc. Soit c'est l'interdiction des manifestations dans le centre-ville sur des endroits où il y a du patrimoine, il y a de la culture, on est au bout là.
Une autre lettre est adressée au ministère de l'Économie. Des mesures d'accompagnement ont été mises en place pour aider les entreprises à traverser la tempête. Mais pour Olivier Dardet, il faut aller plus loin.
Le plan qui a été mis en place, qui est suivi par la Direct, il est à la hauteur d'actions qui auraient duré que quelques semaines. Là aujourd'hui, on est vraiment sur des dépôts de bilan. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin qu'un décalage de charges ou de paiement de TVA. Aujourd'hui, c'est plus grave que ça.
Le restaurateur qui a monté une cellule de crise espère notamment un geste sur les taxes locales.
Alors, les commerçants mécontents, je dois vous dire, Joseph Confavreux, que nos auditeurs nombreux s'interrogent tous sur ce mouvement, y compris en Afrique, se demandent de quoi est composé ce mouvement, qu'est-ce que veulent les manifestants, quelles sont leurs revendications, leurs préoccupations. Certains se demandent même pourquoi ils n'ont pas arrêté alors que le président a fait quelques avancées. C'est le cas, par exemple, de Ridouane qui nous écoute à Sokodé, au Togo. Jean-Luc, lui, fait partie de ceux qui se demandent ce que veulent les Gilets jaunes. Il y a une interrogation profonde. Issa, même chose. Quels sont les objectifs de la grève des Gilets? Ils s'interrogent comme nous, en fait.
Oui, ils s'interrogent et ils ont raison de s'interroger. J'espère que une partie de ce livre collectif, Le Fond de l'air est jaune, apporte quelques réponses, mais sûrement pas des réponses définitives.
Ce sont des pistes.
C'est intéressant là d'entendre les commerçants, dont on imagine évidemment que pour certains, ce mouvement est très difficile à encaisser. Je cite en introduction quelque chose qui m'avait frappé, que j'avais entendu d'ailleurs dans la matinale de France Culture, où la correspondante de Radio France à Saint-Étienne racontait un opticien de la ville qui avait été pillé à l'occasion d'une manifestation et qui racontait sa surprise d'avoir reconnu parmi ceux qu'il pillait certains de ses clients.
Ah oui.
C'est-à-dire que, alors que ceux qui... ça reste une très petite minorité des Gilets jaunes, ceux qui pillent, ceux qui cassent, mais ce qu'on voit surtout, c'est que parmi ces gens-là, c'est pas les casseurs tels qu'on les figure habituellement. Il y a aussi des... il y a un slogan qui disait des braves gens enragés. C'est-à-dire que on sent... et quand on lit les reportages, moi ce qui m'a le plus sidéré, hein, les reportages qui ont été souvent très bien sur les ronds-points, il y a quand même plein de journalistes qui ont fait un vrai travail, c'est qu'on voyait le changement dans les têtes. C'est-à-dire que des gens basculaient. La colère les faisait basculer. Au contraire, c'était la fraternisation sur les ronds-points, des gens qui ne se parlaient pas, qui s'ignoraient, qui d'un coup vivaient, alors qu'on imaginait que c'était vraiment la classe moyenne, les classes moyennes précarisées, les classes populaires, qu'on décrivait un peu comme amorphes politiques dans ces espaces du périurbain qu'on connaît mal, et là découvrait la lutte en commun, la fraternisation, et basculait à la fois politiquement mais individuellement. Et c'est pour ça que je pense que on ne sait pas ce que ça va devenir, mais que c'est très important d'essayer de le penser, parce que ça peut devenir tout et son contraire, et le pire comme le meilleur.
Ludivine Bantini, qui contribue au livre dans un article, fort remarqué d'ailleurs, Ludivine Bantini avec son livre sur mai 68, ces dernières semaines, écrit « Il s'agit vraiment d'un événement historique parce qu'il donne le sentiment que rien ne sera plus comme avant. »
Rien ne sera plus comme avant. Alors ça reste un pari un peu sur l'avenir que de dire ça, mais je pense qu'effectivement... Alors, rien ne sera plus comme avant, sûrement pour ceux qui participent au mouvement, sans doute pour une partie de la politique française. Est-ce que ce sera plus jamais comme avant pour l'ensemble du pays? Ça reste encore ouvert.
L'actualité de la semaine en France suite, Joseph Confavreux. Et revenons d'abord sur les tensions entre Paris et Rome ces derniers jours. Elles se sont manifestées bruyamment, de la bouche notamment du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, dans la capitale italienne, à Le Nir.
Matteo Salvini ne s'est pas contenté de déclarer qu'Emmanuel Macron donne des leçons de solidarité mais refoule des milliers de migrants, aussi bien à Vintimille que dans la région du Piémont. Il en a rajouté une bonne louche sur sa page Facebook, notamment en lançant un appel aux Français pour qu'ils se libèrent à l'occasion des prochaines élections européennes d'un très mauvais président de la République. Entre lui et son allié 5 étoiles au gouvernement, Luigi Di Maio, qui a accusé la France d'appauvrir l'Afrique, le président du Conseil, Giuseppe Conte, tente de calmer le jeu. Dans un communiqué, il assure que l'amitié historique entre l'Italie et la France n'est pas remise en question et que les relations entre les deux pays restent très solides malgré les querelles politiques. Mais difficile de penser que ces efforts diplomatiques suffiront à mettre fin aux polémiques, en particulier sur la question migratoire, exploitée à fond par le chef de la Ligue pour continuer de grimper dans les sondages.
À noter aussi dans l'actualité française, la nomination de Jean-Dominique Senard, jusqu'ici président de Michelin, à la tête de Renault. Thierry Bolloré en sera le directeur général. Il remplace tous deux Carlos Ghosn en prison, on le sait, au Japon.
Sept jours en France.
Et si nous parlions, Joseph Confavreux, du grand débat national lancé, en quelque sorte, grâce aux Gilets jaunes, il a commencé cette semaine et semble connaître un certain succès. En tout cas, Emmanuel Macron a commencé à y participer en rencontrant d'abord des maires et jeudi à Valence des citoyens, des simples citoyens, pour parler, par exemple, RIC, référendum d'initiative populaire, extrait.
Moi, je voudrais aussi vous demander ce que vous pensez du RIC, parce que c'est une des revendications aussi des Gilets jaunes.
On a dans notre Constitution, depuis 10 ans, un référendum d'initiative partagée. Il a des règles qui font qu'il n'a jamais été utilisé. Donc, est-ce qu'il faut déjà modifier ces règles? Ça peut être une piste. Moi, je crois au référendum, mais je pense que le référendum ne permet pas de traiter tous les sujets. Et donc, ceux qui voudraient dire on va voter toutes les semaines ou tous les mois ou sur tous les sujets compliqués au référendum, j'y crois pas tellement. Je pense que le référendum qui est dans la Constitution a un vrai intérêt sur des sujets choisis. Je suis tout à fait d'accord à ouvrir cette possibilité, mais je crois aussi dans ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et un référendum, c'est aussi parfois la porte ouverte au mensonge. Je vais vous citer un exemple avec nos amis britanniques. Ils ont voté pour le Brexit. Il y a des gens de bonne foi qui avaient parfois la même colère que vous. Ils ont dit « La source de tous nos maux, c'est l'Europe. C'est une cochonnerie. » Méfiez-vous des vendeurs de rêves qui vous disent que vos colères, on trouvera une solution à coup de référendum toutes les semaines. J'ai peur que, vous savez... Les gens qui parfois manipulent avec ces idées miracles n'ont pas grand-chose à en tirer.
Alors on va parler de ces propos dans un instant avec vous, Joseph, mais il faut aussi parler des casseurs. Et face aux casseurs qui accompagnent parfois les manifestations de Gilets jaunes, le gouvernement croit avoir trouvé la parade avec une loi, même si cette loi est contestée au sein même de la majorité, Marine de la Moissonnière.
Devant la commission des lois, Christophe Castaner défend le texte soutenu par l'exécutif.
Ce texte, mesdames, messieurs les députés, n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi de bon sens. Ce texte n'est pas une loi de répression, c'est une loi de protection.
Mais c'est justement le volet protection que certains marcheurs jugent insuffisant. La députée Paola Fortessa est contre les interdictions de manifester prononcées par le préfet de police.
Aujourd'hui, on peut déclarer une interdiction de manifester par la voie judiciaire où on a un juge indépendant, on a des procédures contradictoires, on a des voies de recours qui sont claires, qui sont spécifiques. Le fait que ce soit l'administration qui prenne ce type de décision pose problème.
Autre disposition qui suscite des critiques, la création d'un fichier regroupant les personnes interdites de manifestation, Sacha Houlier.
Le fichier des personnes recherchées, aujourd'hui, il comporte les décisions de justice qui sont définitives. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on y introduit également les interdictions administratives qui seront prononcées? De ce point de vue-là, on dit c'est possible, mais cette fiche-là, elle doit disparaître dès lors que l'interdiction disparaît. On ne peut pas entrer dans le fichier et ne jamais en sortir.
Plusieurs marcheurs ont déposé des amendements. S'ils ne sont pas acceptés, nous ne voterons pas le texte, préviennent déjà certains. Le gouvernement va devoir faire des concessions puisqu'il veut aller vite.
Alors nous allons parler des casseurs dans un instant, de votre vision de cette loi, Joseph Confavreux. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart et que vous venez d'écrire avec d'autres experts le fond de l'air est jaune, comprendre une révolte inédite aux éditions du Seuil. Le débat, si on entre en tête dans notre matinale, hier, le secrétaire général délégué des Républicains, Geoffroy Didier, estimait que Emmanuel Macron s'est fait plaisir lors de sa participation au débat citoyen avec les Gilets jaunes, dont on a extrait un passage à Valence. France. Et selon Chantal Joanneau, qui est la présidente de la Commission nationale du débat public, qui a failli organiser ce débat, mais qui n'a pas pu le faire à cause de son salaire, pour elle-même, le grand débat est faussé. On a l'impression, peut-être ai-je mauvais esprit, Joseph Confavreux, mais qu'Emmanuel Macron est reparti en campagne.
Oui, tout à fait. Et c'est un des endroits où il faut reconnaître qu'il est très bon, la campagne. Et donc, je pense que c'était une manière pour lui de reprendre la main. Mais c'est assez intéressant que vous ayez diffusé ces deux extraits sur les casseurs, la loi anti-casseurs et le grand débat en même temps, parce que quand on entend Emmanuel Macron, ça peut être raisonnable. C'est sûr que le référendum, notamment par son côté souvent binaire de poser la question, n'est pas la panacée démocratique que certains lui prêtent.
Et peut même remettre en cause certains...
Voilà, c'est que moi j'aimerais pas qu'on demande demain de choisir, de dire oui ou non
à la peine de mort, par exemple.
Voilà, ou à la peine de mort. Ouais. Donc, même si c'était une initiative citoyenne. Mais cette défense... par ailleurs de la démocratie représentative, sans doute pas jetée avec l'eau du bain, quand elle s'articule avec une loi anti-casseur qui est liberticide, qui est contre la démocratie, il y a quelque chose d'incohérent. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on défende la démocratie si on défend toute la démocratie. Et s'il n'y a pas ce niveau de violence policière qu'on a quand même vu, le nombre de gens éborgnés, les blessures gravissimes...
Alors, violence du côté des manifestants, mais violence aussi du côté de la police, voilà. Reconnue...
Et donc, on a à la fois avec, comme ça a été fait déjà, l'intégration des dispositifs de l'état d'urgence dans la loi commune, et là maintenant, avec cette loi anti-casseur qui rappelle quand même vraiment les années 70, on est quand même dans vraiment une régression démocratique, qui fait que quand ensuite Emmanuel Macron, pendant le grand débat, défend l'idée que la démocratie représentative est quelque chose d'important, on a l'impression que au mieux il marche sur pas sur le même pied, au pire il y a vraiment de la malhonnêteté.
Et le Canard enchaîné nous apprend cette semaine que Emmanuel Macron veut que les gilets jaunes soient fichés par les ex-renseignements généraux, mais de façon très précise, et sur tous les ronds-points, la police a photographié, interrogé certains gilets jaunes pour qu'ils soient véritablement fichés, sans avoir demandé l'avis, selon le Canard enchaîné, de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Oui, moi je crains une duplicité totale. Il y a un livre qui était très intéressant, qui est sorti... je crois en octobre, du philosophe Grégoire Chamaillou, qui avait d'abord fait une théorie du drone, et qui là a fait une enquête sur le libéralisme autoritaire, montrant au fond comment dans les années 70, face aux demandes croissantes de la société, une des réponses a été là ce qu'il appelle la stratégie du dialogue. On a dialogué avec les gens, et en fait, dialoguer, ça permet déjà de distinguer ceux qui veulent bien dialoguer, faire un grand débat, de ceux qui ne veulent pas le faire, qui sont du coup délégitimés politiquement. Ça permet au fond de contourner les vraies questions adressées par les gilets jaunes en disant regardez, on dialogue. Et alors autant je trouve que cette semaine ça a sans doute permis un peu à Emmanuel Macron de reprendre la main, autant moi je reste assez inquiet de comment il va sortir de ça, parce que de fait, si aucune des remontées du grand débat, aucune des thématiques qui vont être traitées, même si elles ont été bien bordées en amont, puisque par exemple l'ISF a été exclu du champ du grand débat, s'il ne se passe rien, je pense que la colère pourrait tout à fait reprendre de manière encore plus vive.
Et d'ailleurs, il faut remarquer que certains gilets jaunes ont organisent eux-mêmes leur propre débat. C'était le cas cette semaine, par exemple, à Paimpol en Bretagne, où les gilets jaunes ont organisé une rencontre, un débat avec la population pour dialoguer en dehors du circuit, j'allais dire, classique.
Mais ceci dit, autant voilà, je critiquerais beaucoup des confrontations entre Emmanuel Macron et les maires, j'ai lu un reportage, je crois que c'était dans Le Monde du week-end dernier, où c'était une petite municipalité à proximité de Lyon, où il y avait un député LREM, 30 gilets jaunes, 70 personnes de simples citoyens. Et alors, ce qu'on en voyait à travers le reportage montrait que je pense que par ailleurs, on est dans un moment d'intense politisation, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y avait pas eu de discussion publique et politique de ce type dans ce bourg depuis des décennies.
Libération de la parole, comme en 68 d'ailleurs, hein. C'est ce qui est remarqué par certains des auteurs du livre. Hein.
C'est aussi un événement de parole.
Ouais.
Ouais. Ouais, je pense qu'on est dans un moment, à la fois politiquement et individuellement, où les choses bougent.
Écrire par courriel
semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, continuez bien sûr à nous écrire. Un salut à quelques auditeurs qui nous écoutent sur le continent africain. Je salue par exemple Elias à Cotonou, Césaire à Lomé, Jean-Baptiste à Yaoundé, Roger à Kisangani. Bonjour aussi à Joseph et Souleymane, ainsi qu'à David à Kinshasa.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique maintenant, Joseph Confavreux, avant de reparler des Gilets jaunes, et plus précisément en République démocratique du Congo, où le nouveau président Félix Tshisekedi a donc été investi jeudi. Florence Maurice a écouté avec beaucoup d'attention son discours d'investiture.
Œuvrer à la réconciliation de tous les Congolais, Félix Tshisekedi en a fait la promesse dès le début de son discours. Il a tendu la main à ses deux adversaires malheureux à la présidentielle, se disant prêt à les associer à la gouvernance du pays. Emmanuel Ramazani Shadary donc et Martin Fayoulou, pour qui Félix Tshisekedi a dit toute son admiration, n'hésitant pas à le qualifier de soldat du peuple, lui qui conteste toujours sa défaite. Dans le même esprit, Félix Tshisekedi a salué la contribution de l'Église catholique au processus électoral, elle qui a pourtant remis en doute publiquement la régularité de son élection. Pour le reste, peu d'annonces dans ce discours assez général, si ce n'est cette promesse d'œuvrer à la libération de tous les prisonniers politiques du pays. Félix Tshisekedi a répété ses priorités, réforme de la justice, emploi des jeunes, lutte contre la corruption, contre la pauvreté et retour à la paix. Mais l'heure n'était ni au règlement de compte, ni aux critiques du bilan de son prédécesseur. Félix Tshisekedi a au contraire salué la détermination du président sortant en faveur de l'alternance démocratique et pacifique, sans oublier cet hommage rendu à son père, l'emblématique opposant Étienne Tshisekedi, un homme d'exception, dit-il, dont il a promis de défendre les valeurs.
Alors, quels sont précisément les pouvoirs du président en République démocratique du Congo? Quelles seront les marges de manœuvre du nouvel élu Félix Tshisekedi? La réponse de Léa Lisa Westerhoff.
Parmi les pouvoirs que le président exerce seul, celui de diriger l'armée, le droit de grâce aussi, qui permet de réduire, commuer ou carrément effacer une peine de prison. Enfin, le chef de l'État peut relever de ses fonctions son premier ministre en cas de blocage. Pour le reste, rien ou presque ne se fait sans l'approbation du gouvernement, que ce soit pour nommer ou révoquer d'ailleurs des officiers de l'armée, de la police, le chef d'état-major, tous les postes au sein des services de sécurité, les hauts fonctionnaires de l'administration, les responsables des établissements publics ou même les ambassadeurs. À chaque fois, selon la Constitution, le président devra avoir l'aval de son gouvernement. Ce qui, dans une configuration classique, peut se révéler être une formalité, peut aussi, dans un contexte de cohabitation, devenir un véritable casse-tête. Dans ce contexte, Félix Tshisekedi aura-t-il le pouvoir de réformer l'armée comme il s'y est engagé, alors qu'il ne dispose d'aucun soutien particulier au sein des services de sécurité et que les ministres pourront à chaque fois faire blocage? Même problème sur le volet économique, où avoir la main pourrait s'annoncer difficile face à des ministres nommés là aussi sur proposition d'un premier ministre issu des rangs de la coalition du président sortant.
Quoi qu'il en soit, le nouveau président dirige désormais un pays aux immenses richesses, mais qui profite peu à la population et dont l'économie est aussi vacillante. Stanislas Dachimier.
Malgré d'énormes potentialités, l'économie du Congo-Kinshasa reste fragile. Elle dépend de l'exportation des matières premières, dont 40% vont en Chine. Une économie dont la santé est donc dictée par l'évolution des cours des minerais, notamment le cobalt, dont le pays est le premier producteur mondial, et le cuivre, dont il est le premier producteur africain. Quant aux cultures d'exportation, leur part a fortement reculé. Celle du café, par exemple, qui comptait beaucoup dans les années 80, est insignifiante aujourd'hui. Et c'est le cas aussi pour le coton, le cacao, le thé ou encore les veya. Le Congo-Kinshasa est loin d'être autosuffisant au niveau alimentaire. Le maïs consommé aujourd'hui par exemple dans les villes est en grande partie importé. Le défi majeur de Félix Tshisekedi est d'enclencher une dynamique vertueuse dans la gestion des recettes et d'en augmenter pour qu'elle profite au plus grand nombre de ses concitoyens. Le nouveau président congolais hérite en effet de l'un des 5 pays les plus peuplés du continent, 89 millions d'habitants aujourd'hui selon les estimations de la Banque mondiale, mais aussi l'un des plus démunis de la planète, malgré la diminution du taux de pauvreté ces 20 dernières années.
Thank you.
Une semaine d'actualité.
Et revenons en France, Joseph Confavreux, avec le traditionnel baromètre annuel du journal La Croix sur les médias qui confirme une crise de confiance entre les Français et la presse. Ça doit nous inquiéter, nous les journalistes. Et en ce qui concerne précisément les gilets jaunes, 51% des Français estiment que le sujet est mal traité. Une télévision est mise en cause par ces gilets jaunes. C'est la chaîne de télévision d'information en continu BFM TV, jugée par eux partiale. Écoutez la réponse de Céline Pigalle, sa directrice.
Je crois qu'il y avait un rapport à notre chaîne, qui était une chaîne que les gens se sont beaucoup appropriée. Il y avait énormément de gens qui la regardaient, et notamment peut-être une partie des gilets jaunes qui souhaitaient qu'on relate ce qu'ils étaient en train de faire comme mouvement, mais qui à un moment ne voulaient plus seulement qu'on leur tende le micro, mais voulaient prendre le micro, ne voulaient pas seulement qu'on les entende, mais ne voulaient plus rien entendre d'autre que ce qui était leur propre parole. Ça, c'est pas possible. Parfois, ce qui nous est reproché, c'est de ne pas seulement diffuser une parole, de pas seulement faire remonter ce qui arrive du terrain, mais aussi de le contredire, de le mettre en perspective, de le choisir, de le mesurer, de le soupeser, de le fact-checker. Le fait qu'il y ait une limite à ce qui pouvait être exprimé, apparu à certains insupportables. Ça fait monter leur colère, mais cette colère, encore une fois, si on peut l'entendre, on ne peut pas la supporter quand elle se transforme en violence.
Alors, les propos de Céline Pigalle nous permettent, Joseph Confavreux, de parler de ce débat sur les gilets jaunes et les journalistes, les violences à l'encontre de journalistes. Quelle est votre vision, vous qui travaillez, vous êtes journaliste, vous travaillez à Mediapart, au site Mediapart. On en a fait beaucoup, ou est-ce qu'il y a un réel problème entre les gilets jaunes et les journalistes ?
Je pense qu'il y a un réel problème entre les gilets jaunes et les journalistes. Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'en démocratie, le journalisme est important, oui, et que donc des attaques physiques envers les journalistes ne sont pas acceptables, qu'elles viennent des gilets jaunes ou de la police, hein, parce qu'on a eu aussi des violences policières envers les journalistes. Après, ceci dit, et tout soutien envers les journalistes blessés affiché, il me semble que les journalistes ont une large part de responsabilité dans une partie de la colère populaire, notamment BFM TV, qui a accompagné certaines des pires mesures qui ont fragilisé, fait éclater les classes populaires, et que donc ils reçoivent en miroir cette colère, ne me semble pas étonnant, même si ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Samuel Gontier, dans Télérama, fait un travail salutaire, le journaliste de lecture de la télévision, et notamment souvent de BFM TV. S'il s'agit de fact-checker, moi je suis tout à fait d'accord. S'il s'agit effectivement de commenter toujours avec les mêmes experts de BFM TV qui vont toujours dans le sens du pouvoir, toujours dans le sens du capitalisme, eh ben que quand après ils viennent dans les manifestations et ils sont en face de gens qui sont dans des situations sociales très difficiles, qui soient pris à partie, ça me semble compréhensible, ce qui ne veut pas dire justifié, puisque il faut redire ça, là le philosophe récemment Vincent Cespedes a dit qu'il comprenait la violence, et là tout le monde lui est tombé dessus alors qu'il établissait une distinction de niveau baccalauréat entre le fait que comprendre ce n'est pas forcément accepter, mais c'est comprendre, c'est-à-dire saisir pourquoi est-ce que des gens aujourd'hui s'en prendraient au journalisme.
Dans ce livre, Le fond de l'air est jaune, Joseph Confavreux, vous publiez une liste de revendications des gilets jaunes publiées sur internet. Il y en a une par exemple qui a été publiée sur internet le 28 novembre 2018 à l'initiative d'une manifestante de la Sarthe. Cette liste est très longue, pas question de la lire à ce micro, mais il y a quand même, c'est un vrai programme politique. Ça commence par zéro SDF, urgent en grosses lettres, c'est la préoccupation numéro 1, que les gros paient gros et que le petit paie petit, référence aux GAFA et aux artisans ou TPE, PME. Il y a d'autres choses encore. Fin de la politique d'austérité. On cesse de rembourser les intérêts de la dette qui sont déclarés illégitimes et on commence à rembourser la dette sans prendre l'argent des pauvres et des moins pauvres, mais en allant chercher les 80 milliards de fraude fiscale. Enfin bon, il y a une liste. Pourquoi avez-vous publié ces listes qui sont quasiment même parfois poétiques?
Oui, on pourrait prendre ça pour un inventaire à la Prévert. Nous, on a choisi de publier des revendications et des textes issus des Gilets jaunes eux-mêmes pour deux raisons. La première, que je rappelais déjà, c'est que il s'agissait pas de d'avoir une parole surplombante avec ce livre, mais aussi de faire les archives du présent, de mettre sur le même plan, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a choisi, c'est la même police, les analyses de certains intellectuels et les revendications des Gilets jaunes comme des documents sur un moment politique important. Ça c'était la première raison.
Ça me rappelle ce qui avait été fait pour, en 1968, d'ailleurs, par votre maison, Le Seuil, d'ailleurs, il me semble, on en avait parlé dans Idée.
Non, mais effectivement, il y a une mémoire de ça qui circule.
Pierre Rosanvallon n'est pas loin.
Pierre Rosanvallon n'est pas loin et il est dans le livre. Et l'autre aspect, c'est que à la fois c'est une liste qui peut sembler être un inventaire à la Prévert et qui semble très réaliste par certains côtés. Oui. Elle n'est pas complètement excessive. Salaire maximum fixé à 15 000 euros. 15 000 euros, on se dit que c'est déjà pas mal. C'est pas l'égalité pour tous à 1 500 euros. Et des fois, on a des revendications dont moi, je vous avoue que je connaissais pas. Un enfant de 6 ans ne se gardant pas seul, continuation des systèmes des aides page emploi jusqu'à ce que l'enfant ait 10 ans. C'est-à-dire qu'on voit, on sent dans ces listes de revendications des situations très personnelles, comme quand ils disent retraite à 55 ans ou à 60 ans pour les maçons ou les désosseurs qui ont des travaux pénibles.
D'où la difficulté que vous soulignez tout à l'heure, Joseph Confavreux, comment traduire ça en acte? Que va-t-il sortir de ces grands débats et de ces revendications? Il y aura forcément, évidemment, des déçus.
Il y aura des déçus. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai appris il y a longtemps avec une personne que j'admire beaucoup, qui était président d'ACT UP, qui disait « il faut arrêter de penser les mouvements sociaux en termes de débouchés ». Les mouvements sociaux ne sont pas bouchés, ils n'ont pas à être débouchés. Donc on n'a pas besoin à chaque fois de se dire « alors c'est quoi votre débouché ?» Néanmoins, il est évident que là, face à un mouvement aussi horizontal, la question de la structuration, et éventuellement de la structuration électorale, puisque c'était le sujet de cette semaine, va se poser, parce que moi, ce que j'espère de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il permettra de nous sortir de cette angoisse de « oulala, le vote Le Pen, on ne sait pas, d'un vote protestataire très informe », justement en structurant une colère légitime. Mais l'autre possibilité, c'est que ça tombe très à droite. Vous parliez tout à l'heure de l'Italie, c'est quand même un cas qui doit nous inquiéter, puisque là, on avait, avec le mouvement 5 étoiles, un mouvement qui, à l'origine, a des revendications de radicalité démocratique tout à fait entendables, des revendications d'indication sociale intéressante et qui s'est fait complètement manger par la Ligue du Nord et sa xénophobie et d'ailleurs en plus ses politiques ultralibérales.
Vous parliez à l'instant d'élections, je dois ajouter que des responsables d'une liste Gilets jaunes ont annoncé mercredi, je crois, vouloir lancer une liste aux européennes.
Oui, alors ils ont immédiatement été assaillis par d'autres Gilets jaunes, parce que, et ce qui est pas complètement faux, c'est qu'ils représentent les Gilets jaunes les plus médiatiques, ceux qui parlent encore à BFM TV. Donc on verra ce que ça donne.
À suivre.
À suivre. Moi, je vous avoue que je crois pas qu'un mouvement de cette ampleur, à la fois politique, intellectuelle et sociale, puisse se fondre dans un système classique de d'élections européennes, et que ça réglera en tout cas les questions soulevées par ces Gilets jaunes.
Merci Joseph Confavreux. Le livre que vous avez coordonné, L'histoire au présent, donc, s'intitule Le fond de l'air est jaune, comprendre une révolte inédite. Il est publié au Seuil.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons de la notion d'homme providentiel en France et d'actualité aussi avec l'historien que vous connaissez sans doute, Jean Garrigue. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, nouveau journal sur RFI, bien sûr.